Bonjour, bonjour à tous, mardi 5 février 2019, il est 9h, bienvenue dans les voies de service sur Canal M. Je suis Louis de Bernis et j'ai avec moi dans le studio Com. Bonjour Com.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Ça va bien, ça va bien. Glissant ce matin, glissant.
Glissant, oui, c'est ça que j'allais vous demander. Par quel moyen êtes-vous arrivé jusqu'à la radio? Est-ce en barque? Est-ce en catamaran?
J'ai nagé.
Je m'attendais presque à voir moi des brises glaces de la STM traversant les rues.
Et non.
Le moins qu'on puisse dire, oui, c'est qu'il y a des flaques d'eau partout. La température fait que ça fond et ça fond. En voulez-vous, en voilà. Eh bien, nous avons jusqu'au studio sans glisser cette semaine, sans tomber cette semaine. Et nous avons plein de sujets pour vous. Quels sont-ils de votre côté?
Alors, on va parler un peu de Facebook. Mm-hmm. Pourquoi pas? Surtout de l'abus de Facebook.
Ah, oui, parlons-en.
De la Chine un petit peu, on va se déplacer vers là-bas. On va parler du jeûne, bref, plein de sujets
jeûne.
Divers et variés.
Le jeûne, celui qui n'est pas vieux ou celui qui...
Non, celui qui fait qu'on a faim.
D'accord. Très bien, de mon côté, eh bien, nous parlerons d'insolites comme d'habitude. Des péripéties s'en est passé. Par exemple, cette personne coincée 3 jours dans un ascenseur. Un ascenseur d'un milliardaire à New York. Ça fait beaucoup de choses en une seule nouvelle, on en parlera. On parlera également... Ah oui, j'ai un bon plan pour vous si vous voulez acquérir un terrain pour très peu d'argent, pour même 1 $, je crois. Eh bien, c'est possible au Canada.
Je prends.
C'est pas dans Montréal, mais c'est dans un très bel endroit quand même. Et puis, plein d'autres. On ira en Chine aussi un peu de mon côté, prendre un bain de bouillon.
Un bain de bouillon,
excellent. Oui. On fera ça avec plein de B. C'est parti pour cette émission. On a tous ces sujets-là pour vous ce matin. Et débutons cette émission à New York, donc, comme je vous le disais, avec une péripétie écoutez, ça fait beaucoup d'éléments insolites dans la même nouvelle. Coincé 3 jours dans l'ascenseur d'un milliardaire à New York. Eh bien oui, c'est ce qu'une personne a vécu tout un week-end dans l'ascenseur d'une demeure new-yorkaise cossue. C'est ce qui est arrivé à une femme de ménage, la pauvre, qui n'a pas pu en sortir et qui a pu en sortir que lundi matin après l'intervention des pompiers. L'incident s'est produit dans un appartement de Upper East Side à Manhattan appartenant à un milliardaire, l'investisseur Warren Stevens. Un porte-parole a confirmé que les pompiers avaient été appelés dans cette coquette maison de briques rouges de la 65e rue peu après 10h lundi, après que les propriétaires eurent signalé que leur ascenseur était en panne. Arrivés sur place, les pompiers ont trouvé l'ascenseur coincé entre les 2e et 3e étages. Qui n'a pas un 2e et un 3e étage dans sa maison?
Exactement.
À New York? Ils ont forcé les portes et dégagé une personne qui se trouvait à l'intérieur, a indiqué le porte-parole, précisant que la pauvre s'y trouvait depuis vendredi. Cette personne était apparemment en bonne santé. Bon, tant mieux, a-t-il précisé. Mais elle a tout de même été prise en charge par les urgentologues et hospitalisée pour des examens. Les pompiers n'ont pas donné d'autres détails ni révélé l'identité de la personne restée prisonnière 3 jours durant. Mais selon plusieurs médias new-yorkais, il s'agissait d'une femme de ménage, Marites Fortalisa, employée de la famille Stevens depuis des années. Venue vendredi, alors que les Stevens étaient partis pour le week-end, elle s'est retrouvée coincée et n'a pu le dire à personne. Contactée, la société Stevens Inc. n'a pas immédiatement réagi, mais selon un communiqué, elle a promis d'enquêter sur les causes de cet incident malheureux et de prendre des mesures appropriées pour s'assurer qu'un incident de ce genre ne se reproduira pas. On ignorait encore si l'ascenseur était doté d'un numéro d'appel d'urgence. Le service d'inspection des immeubles new-yorkais a été dépêché sur les lieux. Voilà, la personne est en bonne santé, mais peut-être que la solution pour elle aurait été Facebook si elle avait eu
suspect. Effectivement, disons que ça fait longtemps quand même pour
elle
faire
va
le
bien.
Ménage dans l'ascenseur.
En tout cas, elle va bien, oui, l'ascenseur devait être très propre.
Et donc on parlait de Facebook, effectivement, elle aurait pu appeler via Facebook.
Tendu la perche.
Une perche magnifique.
Vous avez vu ça?
J'ai adoré. Effectivement, on va surtout parler de l'abus de Facebook. Quelle est votre utilisation de Facebook? Est-ce que c'est...
Alors, assez quotidienne, je dois dire, mais j'ai une bonne excuse. C'est une partie de mon travail.
Ah, excellente excuse.
Ces emplois qui nous permettent, sans trop culpabiliser, d'y aller.
Effectivement, donc on va parler de Facebook. Donc le 4 février 2019, Facebook fêtait ses 15 ans, donc hier. Quelques jours auparavant, une étude de l'Université d'État du Michigan montrait qu'une utilisation exclusive des réseaux sociaux pouvait conduire à faire de mauvais choix. Un phénomène également observé chez les personnes atteintes de dépendance à la drogue ou à l'alcool. Plusieurs facteurs peuvent rapprocher un usage excessif des réseaux sociaux d'une addiction. Le fait de penser à ces sites quand on n'y est pas, un changement d'humeur quand on se connecte, un usage qui génère des conflits avec les autres, des symptômes de manque quand on tente de contrôler sa fréquentation de Facebook, Instagram et autres. L'Université de l'État du Michigan a révélé une autre caractéristique de l'addiction dans l'abus des réseaux sociaux, la manière dont il affecte la prise de décision. Une piste de recherche exposée dans Journal of Behavioral Addictions de janvier 2019. Les chercheurs ont mené une expérience auprès de 71 personnes de 18 à 35 ans, dépourvues de désordres psychiatriques, de problèmes d'abus de substances ou d'addiction au jeu. Ils ont en revanche déterminé leur niveau d'usage de Facebook en utilisant la Bergen Facebook Addiction Scale, un système d'évaluation mis au point en 2012 et basé sur un questionnaire. Après quoi, les participants ont été soumis à un test psychologique créé, lui, en 1994 et appelé l'Iowa Gambling Task. Le principe ? Demander aux participants de tirer des cartes issues de 4 jeux proposés, disposés devant eux. Chaque tirage s'accompagne d'une rétribution fictive en dollars ou d'une pénalité, perte d'argent. En fait, 2 des jeux de cartes sont composés de telle sorte qu'ils génèrent de gros gains, mais aussi de grosses pertes, et à terme s'avèrent plus désavantageux que les 2 autres, qui sont source de gains et de pertes plus faibles. En l'occurrence, pour la présente étude, le test a eu lieu avec 4 piles de cartes virtuelles sur un écran d'ordinateur. Et chaque personne a exécuté 100 tirages. Les joueurs peuvent piocher dans n'importe quel jeu comme ils l'entendent, dans n'importe quel ordre, en changeant de pile quand ils le veulent. Il leur est tout de même signalé, sans plus de précision, que 2 d'entre elles sont plus intéressantes que les 2 autres. L'enjeu réel de l'opération, qui n'est évidemment pas révélé aux participants, on leur dit qu'il leur faut amasser le plus d'argent possible. Donc l'enjeu réel de l'opération est d'évaluer le processus de décision, car au fil des tirages, il est normalement possible de comprendre dans quel jeu il est plus prudent de tirer une carte pour maximiser ses gains sur le long terme. L'individu doit pouvoir élaborer peu à peu une stratégie qui lui fait éviter les erreurs. Or, les chercheurs se sont rendus compte que les participants, qui sont considérés comme des utilisateurs excessifs de Facebook, ne parviennent justement pas à mettre au point une telle stratégie. Ils continuent de faire de mauvais choix, comparativement aux utilisateurs plus modérés du réseau social. Ce distinguo n'apparaît clairement que lors des 20 derniers tirages, c'est-à-dire un moment où les participants sont susceptibles d'avoir compris quelles piles de cartes les avantages et lesquelles risquent de les pénaliser. Cette incapacité à réussir l'Iowa Gambling Task correspond à une difficulté à apprendre de ses erreurs et à un processus de prise de décision perturbé qui se retrouve chez les personnes souffrant d'addiction. Les participants se focalisent sur l'idée d'une forte rétribution potentielle et ne la pondèrent pas avec le risque d'écoper d'une pénalité aussi importante.
Intéressant, et oui, ça peut se comprendre effectivement pour être sur Facebook régulièrement quand on voit la frénésie, les débats houleux
que
toute petite nouvelle peut engendrer. Oui, on perd un peu de sa rationalité.
Effectivement,
parfois.
Donc faites attention aux réseaux sociaux.
Pas trop de Facebook, sinon vous ne gagnerez pas au casino.
Dis-moi où conséquent dessein. Y ont mis des miroirs dans l'ascenseur. Depuis, y a plus personne qui se plaint de sa lenteur. Entre la tête et le cœur, le noir et le blanc, entre l'ivresse et l'accélérateur, entre l'amour et la voix d'accotement. Dis-moi où, dis-moi où c'est qu'on descend. Dis-moi où, dis-moi où c'est qu'on descend. Voix d'accotement, c'est où qu'on descend. Ça prend autant de folie que de courage pour descendre ensemble au 13e étage et fermer la porte au mauvais présage avec ta main comme seul bagage. Dis-moi où, dis-moi où c'est qu'on. Dis-moi tout que je calcule mon élan. Dis-moi quand pour qu'on saute en même temps.
Un petit voyage en ascenseur avec Louis-Jean Cormier.
Et pendant que nous écoutions la musique sur l'ascenseur, Yves Olivier était dans celui de Canal M et nous a rejoint dans le studio. Bonjour.
Bon matin à tous.
Et vous avez des sujets, j'imagine.
Oui, ben en fait, le premier sera un sujet d'à peu près tous les jours, que ça concerne quelque chose qui pourrait tous nous arriver. Vous savez, j'ai l'habitude des fois de, excusez l'anglicisme, mais de highlighter des commerçants, des boutiques, des cafés, des entreprises. Là, cette fois-ci, ça va être comment les consommateurs peuvent, s'ils ont des... comment dire ça, s'ils ont des litiges avec ces commerçants-là, c'est quoi le modus operandi, en fait?
Intéressant, voilà. Ça peut arriver, effectivement. Eh bien, nous vous écoutons.
Déjà
si, ben, si
ah oui,
vous,
ah,
vous
bah, super,
de,
bon, bah, parfait, mais merci.
De rentrer dans l'émission.
Excellent. Donc, en fait, c'est la presse qui nous propose un petit guide pour régler un problème avec un commerçant. Et c'est un texte de Marc Tison. Pour les fêtes, vous vous êtes offert une nouvelle porte de garage ou une thermopompe à crédit ou un service de déneigement. Hélas, la porte n'est pas étanche, la thermopompe est grippée. Avec une régularité de métronome, le déneigeur apparaît systématiquement 2 heures après votre départ au travail. Comment régler le différend à votre satisfaction? Voici les 6 étapes recommandées par l'Office de la protection du consommateur. Alors, tout d'abord, quel est le problème? Comme tout bon avocat, vous devez préparer votre défense, recueillir et consulter tous les documents pertinents, factures, modes d'emploi, notices d'assemblage, garanties, publicités et promesses écrites. Assurez-vous que vous avez pris vos responsabilités en montant correctement le produit, par exemple, ou en l'entretenant adéquatement. Pour bien vous mettre en tête vos arguments, décrivez par écrit en quoi consiste le défaut, le problème, la défectuosité. Le deuxième point, c'est d'organiser votre documentation. Donc, réunissez et classez dans un dossier tous les documents pertinents, du plus ancien au plus récent. Vous y ajouterez les communications avec le commerçant et les résumés de conversations à mesure qu'elles surviendront. Quelle serait la solution? En point 3, vous devez connaître votre objectif, savoir ce que vous souhaitez obtenir. Réfléchissez à la solution satisfaisante, raisonnable et réaliste qui constituerait une réponse convenable à vos doléances. Point 4, trouvez votre interlocuteur. Vous devez déterminer, ou quelquefois deviner, quelle serait la personne qui sera en mesure de vous répondre. Le propriétaire de l'entreprise, le directeur du magasin, le responsable du service. À moins que la situation puisse se régler aisément au téléphone ou par courriel, prenez un rendez-vous pour négocier en personne. Si possible, faites-vous accompagner d'une personne qui pourra témoigner de la discussion, mais par contre pas votre fille de 12 ans. Point 5, l'art de négocier. D'abord, restez calme. Exposez clairement et de façon concise votre problème. Avancez vos arguments, les soutenant avec des documents pertinents. Décrivez sommairement les mesures correctives que vous attendez. Laissez ensuite le commerçant formuler ses propositions. Évaluez-les, la tête froide, et si nécessaire, faites une contre-proposition. Vous devrez peut-être consentir à des concessions. Que la négociation réussisse ou achoppe, une fois à la maison, décrivez par écrit la teneur de la conversation et sa conclusion. Datez le document, il pourrait servir. Et enfin, une mise en demeure. La sixième étape n'en est pas vraiment une. Si les étapes précédentes n'ont mené à aucun dénouement favorable, vous en serez peut-être réduit à faire une mise en demeure. Elle consiste en une lettre officielle qui exige du commerçant qu'il remédie au problème de la manière que vous précisez et avant la date que vous indiquez. Joignez-y des copies des documents qui soutiennent votre cause. Il faudra envoyer l'original de la mise en demeure par courrier recommandé et conserver une copie. En cas de refus, et si le préjudice est de 15 000 $ ou moins, vous pourrez porter le litige devant la cour des petites créances. Cela dit, voici quelques rappels. Les garanties légales édictées par la loi sur la protection du consommateur prévoient qu'un bien acheté ou loué doit avoir une durée de vie raisonnable et rendre le service qu'il est censé rendre. Par ailleurs, le commerçant ou le fabricant peuvent offrir gratuitement une garantie dite conventionnelle. Si la brosse, l'aspirateur ou la porte ont été vendus par un vendeur itinérant, vous pouvez résilier l'entente dans les 10 jours suivant la réception de votre exemplaire signé du contrat. C'est également le cas pour un contrat de rénovation résidentielle qui a été signé à votre domicile, même si c'est vous qui avez communiqué avec l'entrepreneur au départ.
En résumé, il faut être organisé, bien à son affaire et calme.
Et garder où ils sont sans froid.
Donc il ne faut pas aller trop sur Facebook avant ça, je pense, si on a un problème. Parlons à présent braquage de banque, ou plutôt tentative de braquage de banque. Ça, c'est une histoire qui, si elle avait réussi, aurait pu finir dans un film.
C'est le mode d'emploi, c'est ça?
C'est un mode d'emploi raté, parce que écoutez, la police a réussi à déjouer la tentative. Mais écoutez, si c'était allé jusqu'au bout, ça aurait fait un bon film, à n'en pas douter. C'est du côté des États-Unis, de Miami, que ça se passe. Un nid de poules au milieu d'une rue de Miami, en Floride, a mis au jour un tunnel clandestin relié à une banque, selon l'antenne locale du FBI qui a ouvert une enquête pour tentative de cambriolage. Le trou s'est formé au beau milieu de Flamingo Road, dans le quartier de Pembroke Pines, dans l'ouest de la ville, au niveau d'une succursale de la Chase Bank. Il a finalement laissé entrevoir un tunnel creusé à quelques centimètres seulement du bitume, selon les photos diffusées sur le compte Twitter de l'antenne locale de la police fédérale. Le trou a été signalé mercredi par un riverain aux services locaux de la voirie qui a averti la police de Miami en découvrant un tuyau d'arrosage dans le conduit, a raconté le quotidien Miami Herald. La police locale, avec le soutien du FBI, a retrouvé l'entrée du tunnel cachée par des palettes de l'autre côté de la rue. À côté se trouvaient un générateur électrique, un treuil et même un petit wagon, a précisé le porte-parole du FBI. Le tunnel, on parle pas d'un petit tunnel, tenez-vous bien, d'une longueur de 45 mètres environ, ne faisait que 60 à 90 cm de diamètre. Il faut être très petit pour y entrer et il ne faut pas être claustrophobe, a expliqué le policier. Selon lui, le terrassier amateur creusait depuis plusieurs mois, ça ne se fait pas en un jour. La banque, qui n'a pas souhaité faire de commentaires, n'a pas été victime de cambriolage, a précisé le FBI. Le mode opératoire rappelle le célèbre braquage du siècle qui avait visé à l'été 76 la banque Société Générale de Nice en France. Les cambrioleurs étaient passés par les égouts puis avaient creusé un tunnel jusque dans la salle des coffres. Le butin, qui n'a jamais été retrouvé, a été estimé à 46 millions de francs à l'époque, soit l'équivalent de 44 millions de dollars canadiens actuels tout de même. Eh bien, c'était peut-être les mêmes voleurs qui sont passés en Floride cette fois-ci et ça n'a pas fonctionné.
La femme de ménage de ce fameux milliardaire.
Il y est pour quelque chose, tout est lié, tous les articles sont liés. Peut-être, on va enquêter.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs.
sommeil. Il décroche son bruit, le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné.
Peut-être était-ce un gentleman cambrioleur qui a creusé ce tunnel dans le but de cambrioler une banque. C'est Jacques Dutronc qui nous chantait cette pièce de 1966, Gentleman cambrioleur, bien sûr en référence à Arsène Lupin.
Merci Jean-Sébastien.
Alors, qu'est-ce qu'on mange en général pour avoir une meilleure mémoire? Qu'est-ce que vous
dites? Une meilleure mémoire.
Ouais. Comment améliore-t-on sa mémoire?
Alors,
est-ce que vous vous souvenez?
On mange quelque chose de vraiment dégueulasse. Comme ça, on se rappelle.
C'est une très bonne technique, effectivement.
Je dirais du poisson. Est-ce que le poisson est bon?
Le poisson est excellent,
yes,
pour la mémoire.
Yes.
Effectivement.
Je m'en souvenais.
Mais alors ça, c'est effectivement une idée reçue, mais est-ce qu'on sait pourquoi?
Ah,
à cause du mercure.
Faut pas
du mercure.
On devient des X-Men.
Non, effectivement, manger du poisson pour avoir une mémoire d'éléphant, c'est effectivement derrière les adages. On va essayer de revenir un peu sur les fondements scientifiques.
Parce que c'est sérieux ici.
Parce que c'est sérieux quand même.
Tâchons de comprendre.
Hein. Le poisson a souvent été considéré comme bon pour la mémoire du fait de sa richesse en phosphore et pas en mercure. C'est-à-dire à peu près 100 à 200 mg pour 100 g selon les poissons. Sous prétexte que ce minéral était présent dans les phospholipides, constituant des membranes cellulaires de l'organisme, et en particulier ceux des membranes des cellules neuronales. Pourtant, consommer du phosphore n'aurait pas d'impact direct sur la teneur des cellules en phospholipides, et encore moins sur la mémoire. C'est en tout cas ce que plaident certaines études scientifiques. Mais ce minéral reste tout de même essentiel au métabolisme, et par conséquent au fonctionnement du cerveau. Le poisson n'est toutefois pas la première source de phosphore, puisque d'autres aliments en contiennent davantage. C'est le cas des œufs, du fromage ou encore des fruits oléagineux. Ainsi, même si le poisson ne participe pas directement à la stimulation de la mémoire, ses bénéfices sur le cerveau sont bien réels. En effet, les poissons, et en particulier les poissons gras comme le maquereau, le saumon, le hareng, sont source d'oméga 3, des acides gras essentiels au bon fonctionnement cérébral. Depuis plusieurs années, les études scientifiques mettant en évidence les bénéfices de ces lipides s'accumulent. Elles concernent principalement les acides gras, comme l'acide docosahexaénique, DHA, et l'acide éicosapentaénique, l'EPA. Voilà. Donc Yves, j'aimerais qu'on en reparle un peu après.
Dicté à la fin de
l'émission. Concernant Alzheimer, donc en prévention, chez des sujets sains, la consommation régulière de poissons serait associée à une meilleure fonction cognitive et à une meilleure mémoire sémantique ultérieure. Des études montrent même une diminution de 30 à 40% du risque de développer une démence vasculaire liée à l'âge chez les personnes consommant du poisson au moins une fois par semaine, en comparaison avec les personnes qui n'en consomment pas. Chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence vasculaire liée à l'âge, le DHA, donc je le répète, l'acide docosahexaénique, voilà. Le DHA permettrait de ralentir et d'atténuer le déclin cognitif lié à ces pathologies. Attention toutefois aux compléments alimentaires à base d'huile de poisson riche en acides gras oméga 3 qui ne préviendraient pas la dégénérescence du cerveau, selon une étude publiée en 2015 par le Journal of the American Medical Association. En plus de diminuer les risques de pathologies dégénératives, les poissons gras pourraient également agir en prévention de la dépression. De nombreuses études épidémiologiques menées mettent en évidence un lien significatif entre une prévalence de la dépression plus faible et la consommation de poissons gras. Cet effet serait dû à l'implication des oméga-3 dans le fonctionnement du système nerveux central, au niveau des neurotransmetteurs également, visés par les antidépresseurs. Pour aider à couvrir ces apports, le Programme National Nutrition Santé recommande depuis 2011 de consommer du poisson au moins 2 fois par semaine. Mais les études de consommation montrent que trop peu encore en consomment, trop peu de gens, 150 grammes par semaine environ. Et donc l'actualisation des repères nutritionnels réalisés par l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, ANSES, début 2017, confirme ces recommandations. L'agence soulignant l'intérêt d'une consommation bi-hebdomadaire de poissons, dont un poisson gras pour les oméga-3. Et l'ANSES recommande en effet une consommation d'oméga-3 équivalent à 1% environ de notre apport énergétique quotidien. Donc manger du poisson, c'est bon pour la mémoire et pour le cerveau en général.
Merci pour ces explications pleines.
Ça s'applique au sushi aussi.
Ah
rendu là. Mais ouais, il y a un peu de.
Mais alors il faut manger combien de sushis pour que ça fasse ça.
Il faut manger beaucoup de sushis.
Oui. Ah bon, là c'est bon alors.
Ça intéresse.
C'est
bon. Ça intéresse Olivier. Il est partant. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission. Continuons, poursuivons le tour de table. C'est à vous, je crois, Yves Olivier. De quoi allez-vous nous parler?
Alors, en fait, je reste dans la rubrique légale, on va dire, pour vous parler d'une personne qui tente, en fait, dans le coin d'Ottawa, de faire reconnaître son nom. Et croyez-le ou pas, c'est plus difficile qu'on le pense. Et pourtant, il a un nom normal. Je veux dire, il ne s'appelle pas Catastrophe Climatique.
D'accord, oui. Ses parents ont été gentils.
C'est ça. Il s'appelle tout simplement Claude Therrien.
Ah oui, d'accord, oui.
Voilà. Claude Therrien, un homme d'Ottawa, se bat depuis 2 ans au sujet de son nom. C'est Radio-Canada qui nous en parle. En fait, Claude Therrien, lorsqu'il a dû remplacer son passeport perdu et expiré en 2016, il a présenté son certificat de naissance à Passeport Canada pour prouver sa citoyenneté canadienne. L'homme d'Ottawa venait de s'engager dans 2 années frustrantes à essayer de rétablir sa bonne réputation. Monsieur Therrien a été élevé dans une famille francophone catholique traditionnelle et son nom de baptême suit la tradition religieuse de donner au garçon le nom de Joseph, époux de Marie, mère de Jésus, pour ceux qui ne le savent pas. Pour la même raison, beaucoup de filles catholiques françaises sont nommées Marie sur leur acte de naissance. Selon la tradition, ce prénom biblique est suivi du prénom d'un parrain ou d'une marraine. Dans le cas de Therrien, Louis a été ajouté, et enfin du nom de famille auquel le père de Therrien a accidentellement ajouté un R. Ainsi, le certificat de naissance de M. Therrien porte le nom de Joseph-Louis-Claude Therrien, deux R à Therrien, et c'est le nom qui figurait sur son nouveau passeport. Ses parents ont toujours voulu qu'il s'appelle Claude, et le nom de Claude Therrien figure d'ailleurs sur des dizaines de pièces d'identité anciennes et nouvelles, dont son permis de conduire, sa carte d'assurance sociale, ses cartes professionnelles et son adhésion à un club de racquetball. J'ai toujours utilisé un seul nom dans ma vie, précise M. Terrien, qui a passé les deux dernières années à essayer de convaincre les représentants du gouvernement que son prénom n'est pas vraiment Joseph. Cela ferait de mon père, de moi et de mes quatre frères des Joseph, a souligné M. Terrien. Pour prouver son point de vue, Claude Terrien a sorti une boîte de documents et de photographies, dont une photo de bébé portant l'inscription « Claude à 7 mois et demi », écrit à l'encre bleue. Néanmoins, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada insistent sur le fait qu'il s'appelle Joseph, comme l'indique son certificat de naissance de l'Ontario. Depuis 2 ans, on lui dit que s'il veut Claude Terrien sur son passeport, son certificat de naissance doit être au nom de Claude Terrien. Depuis 2 ans, Service Ontario lui dit s'il veut Claude Terrien sur son acte de naissance, il devra légalement changer son nom. Monsieur Terrien s'inquiète de la confusion que son nouveau passeport pourrait causer à la frontière, car le nom qui y figure ne correspond à aucune de ses autres pièces d'identité. Mais pour lui, c'est plus qu'un cas de bureaucratie inflexible. Il croit que l'intransigeance de Service Ontario témoigne de l'ignorance et du manque de respect du gouvernement provincial à l'égard des traditions franco-ontariennes, particulièrement les traditions catholiques. C'est plus qu'une tradition, a soutenu Claude Thibault, prêtre à Cornwall en Ontario. C'est aussi une insulte à la langue française. Dans sa paroisse, M. Thibault demande au secrétaire de souligner le prénom d'un enfant sur l'acte de naissance, bien qu'il admette que ce n'est pas une solution très efficace. Quand j'ai entendu dire que quelqu'un se battait à ce sujet, j'ai dit « bien, je dois lui parler », a mentionné Claude Thibault. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le ministère responsable des passeports canadiens, a répondu que « les demandeurs peuvent choisir d'enlever ou d'inverser un ou plusieurs prénoms de leur certificat de naissance, pourvu que le nom de demandé pour impression sur le passeport soit appuyé par le nom sur une autre pièce d'identité acceptable, comme un permis de conduire. Toutefois, s'il y a une faute d'orthographe sur le certificat de naissance, comme c'est le cas dans le nom de M. Terrien, un changement de nom légal s'impose. » Donc voilà, c'est tout.
J'imagine qu'en plus c'est payant ce changement de nom.
Oui, donc on imagine qu'à chaque fois il faut aller...
des frais de dossier à chaque
exactement.
Fois.
Exactement. Puis moi ça m'est arrivé ça en fait. J'avais 2 noms de famille. Mm-hmm. Puis il y a un département du service financier avec lequel je fais affaire qui avait un et l'autre avait l'autre. Et donc ils s'amusaient à me faire des pubs sur le service de l'un. On leur dit, je leur dis non, je suis déjà votre client. Mais ils n'avaient pas tous leurs noms.
Messieurs, messieurs, avez-vous déjà considéré, ou peut-être même déjà acheté, remarque, considéré acheter un petit bout de terrain quelque part ici au Canada? Non.
Bah, je veux dire, j'ai acheté là où j'habite.
D'accord. Mais je veux dire un peu plus à la campagne, au calme.
Non, pas encore.
D'accord.
Non.
C'était trop cher pour le moment.
Trop cher. Eh bien, j'ai la solution pour vous. C'est gentil ça. J'ai la solution, j'ai des terrains à 1 dollar. En voulez-vous? En voilà. Le maire d'un petit village du Nouveau-Brunswick dit être inondé d'appels et de courriels après avoir proposé de vendre des parcelles de terrain pour moins que le prix d'une tasse de café. Le village de McAdam, qui abrite 1225 habitants, a vu sa population croître dans les dernières années. Mais le maire de Kenstanix espère que de vendre des terrains vacants pour 1 dollar chacun puisse augmenter encore davantage l'affluence. Le village a annoncé en novembre qu'il offrirait ce prix pour 16 terrains. Depuis ce temps, plus de 600 acheteurs intéressés de partout au pays et même de partout dans le monde ont contacté le maire. Vous ne serez donc pas les premiers, malheureusement. Monsieur Stanix dit qu'il ne s'attendait vraiment pas à cet intérêt accru. Le village, qui est situé à environ 1 heure de voiture de Fredericton, a 3 atouts majeurs, selon le maire. L'industrie, le tourisme et la retraite. Il abrite 2 usines manufacturières, une gare de train historique qui attire chaque année des milliers de visiteurs, un camping au bord du lac et des entreprises locales, des services pour les personnes âgées. L'idée de vendre des terrains à un prix modique est envisagée depuis plusieurs années. Le village avait formé un groupe pour réfléchir à la grosseur de sa population qui est en déclin depuis des décennies en raison de l'effondrement de l'industrie ferroviaire. Depuis ce temps, le village a vendu 62 maisons, sa population a grimpé modestement, et il y a eu un regain d'intérêt pour cette petite communauté. Soudainement, certaines personnes sont venues nous dire « Est-ce qu'il y a des terrains disponibles ? Nous aimerions construire, mais nous ne trouvons pas de terrain », a relaté le maire. Monsieur Stanix affirme que son village avait approché le gouvernement provincial pour acheter les 16 terrains. Bien que chaque terrain soit évalué entre 5 000 et 7 500 dollars, Monsieur Stanix a dit que le village a payé beaucoup moins pour ceci. Le bassin d'acheteurs potentiels a été réduit à 86 candidats depuis, dont 11 qui ont déjà été sélectionnés comme des acheteurs convenables, des familles et des jeunes retraités. La communauté tissée serrée se concentre à choisir des acheteurs qui voudraient construire des maisons et passer leur vie dans le village. Ils sont moins intéressés aux promoteurs en quête d'une bonne affaire. Nous avons des gens qui nous ont appelés pour dire « Je veux prendre tous les 16 terrains et je construirai des maisons. » Et ce n'était pas ce qu'on recherchait. Mais oui, tu m'étonnes. Et puis pourquoi pas un grand centre commercial et des parkings. En raison de la forte demande, il est maintenant impossible de faire une offre. Bon, il faudra repasser.
Il y aura probablement des terrains à 1 dollar, il n'y a plus rien finalement.
Il y aura peut-être une autre ronde avec des terrains à 2 dollars. Il faudra doubler son investissement. L'objectif ultimement est d'augmenter la population au moins d'un millier. Donc vous doutez que c'est pas avec les 16 terrains qu'on va trouver un millier de personnes. À moins qu'on entasse vraiment les gens dans les maisons.
Des HLM.
Des bois HLM à la française. À l'âge d'or de Macadam, lorsque c'était une ville ferroviaire, nous avions beaucoup de gens qui travaillaient au chemin de fer ici. Et nous avions probablement une population de 2700 à 3000 habitants. Plusieurs personnes ici pensent que cette taille de population est l'objectif à atteindre. Rassurez-vous, je pense qu'il y a de la place là-bas et surveillez la ville de Macadam dans les mois qui viennent. Il pourrait y avoir d'autres offres intéressantes.
Avec les filles du Nord, à jouer aux cartes, puis veiller tard. Ni quack and back, j'y vois de moins en moins souvent. Il reste plus de bon restaurant. Y'a rien de ouvert après 5 heures. Ni quack and back.
petit détour musical par le Nouveau-Brunswick avec les Hey Babies, Negwak and Back.
Merci Jean-Sébastien. Restons-nous au Nouveau-Brunswick ou allons-nous ailleurs?
Non.
Bougeons.
Rien à voir.
Une escale.
C'est ça, c'était juste une pause. Est-ce que vous avez bien mangé ce matin?
Oui, normalement, comme tous les matins.
Je l'ai fait devant vous.
Oui, effectivement. C'est loupé pour le jeûne aujourd'hui. Ah. Là, il va falloir repasser.
Attendez, vous allez nous dire qu'il faut ne pas manger le matin?
Non.
Bon, j'ai eu peur.
Il faut manger quand on a faim, je pense.
D'accord, parce qu'on nous dit régulièrement que le matin, c'est le plus important, le repas de la journée.
Eh bien, je reviendrai peut-être avec quelque chose là-dessus, mais non, pas forcément.
Vous n'avez pas remarqué, c'est le monsieur, comme c'est monsieur qui met à plat tout ce qu'on a appris.
Tout ce que vous savez dans la vie, rencontrer Com et tout est faux.
Bref, non, mais est-ce que jeûner, c'est si bon que ça pour la santé? C'est plutôt ça la question.
Peut-être, c'est une bonne réponse.
Très bonne réponse, on va voir ça tout de suite. C'est effectivement peu dire que le jeûne suscite de nombreuses questions. En témoignent les interrogations de pas mal d'internautes auxquelles on va répondre. Le jeûne donc attire de plus en plus d'adeptes pour ses supposées vertus préventives, thérapeutiques ou spirituelles. Il consiste à n'absorber que des bouillons ou jus très peu caloriques, jeûne partiel, voire uniquement de l'eau, jeûne complet, pendant plusieurs heures, jours, semaines en continu ou par intermittence. En théorie, notre organisme aurait besoin toutes les 6 heures en moyenne d'apport en nutriments, vitamines et minéraux nécessaires au fonctionnement des composés cellulaires et de combustible, le glucose, pour produire énergie et chaleur. Pourtant, lorsque nous cessons de nous alimenter, nous ne tombons pas d'inanition, ni au bout de quelques heures, ni même au bout de quelques jours. Quelle en est la raison? Eh bien, c'est tout simplement la grande capacité d'adaptation de notre corps qui met en place des voies de substitution pour pallier l'absence de nourriture. Les 5 premiers jours, le corps siphonne les réserves de glucose du foie, avant de les puiser dans le tissu adipeux et les muscles. Au-delà, le foie et les reins se mettent à produire des corps cétoniques, donc de l'acétone et de l'acide. Donc des corps cétoniques utilisés à la place du glucose, qui participent à créer une sensation coupe-faim, un peu opérisante. Éliminées généralement dans les urines, ces substances deviennent toxiques lorsqu'elles sont produites en excès. En pratique, le jeûne consiste souvent d'une diète stricte à base de bouillon de légumes et de jus de fruits inspiré de la méthode Bunchinger à visée préventive, mais pas thérapeutique, le jeûne médicalisé n'étant pas autorisé dans beaucoup de pays. Mais des pays comme l'Allemagne et la Russie l'utilisent dans diverses indications. Médiatisée en 2012 par un documentaire de Thierry de Lestrade, cette diète est pratiquée par ses adeptes pour lutter contre les maladies inflammatoires, comme l'arthrose, polyarthrite rhumatoïde, les maladies de l'intestin et certaines affections cardiovasculaires. Des effets qui reposeraient notamment sur la mise au repos du système digestif, qui permettrait de diminuer l'apport de substances pro-inflammatoires et d'assainir le microbiote, connu pour son rôle dans l'efficacité de nos défenses immunitaires. Ces 20 dernières années, des travaux ont été effectués montrant une diminution des marqueurs de l'inflammation dans le plasma de sujets soumis à un jeûne partiel ou total. Toutefois, la pertinence de ces essais cliniques reste très discutée. Ainsi, dans un rapport de 2014, l'INSERM a évalué pas moins de 351 publications scientifiques concernant les effets préventifs et thérapeutiques du jeûne. Et on a conclu qu'aucune donnée clinique reposant sur ces essais rigoureux ne corrobore à ce jour ces pistes, estimant donc que la portée médicale du jeûne demeure théorique. Nombre de personnes jeûnent également dans l'espoir d'augmenter leurs chances de guérison en cas de cancer. L'idée, affamer les cellules tumorales dans l'espoir de rendre plus efficace l'action de la chimiothérapie. Telle est la philosophie des travaux du biologiste américain Walter Longo, directeur de l'Institut de la longévité à l'Université de Californie du Sud, à Los Angeles. Sous sa direction, plusieurs équipes commencent à étudier l'effet de la diète sur des modèles cellulaires et animaux. Les premières conclusions, publiées en 2008 puis confirmées en 2012, montrent que des lignées de cellules affamées, c'est-à-dire privées de leur substrat énergétique, donc du glucose, réagissent différemment des cellules normales à l'injection d'un anticancéreux courant, la cyclophosphamide. La raison ? Alors que ces cellules saines mettent en place des mécanismes de préservation et survivent ainsi plus longtemps au traitement, les cellules tumorales se mettent à proliférer davantage que les tumeurs ne régressent. De récents travaux, effectués à l'université de Gênes en Italie et publiés en avril 2007, confirment cet effet positif du jeûne.
Mais toutes ces études, aussi étonnantes que prometteuses, n'ont été menées que sur des modèles cellulaires et animaux. Des recherches sont donc en cours, notamment à l'Université de Californie, sur ses bienfaits contre le cancer. Fin 2017, cependant, l'Institut national du cancer affirmait que cette pratique n'a pour l'instant démontré aucun bénéfice pour la prévention, l'efficacité des traitements ou le pronostic de cette maladie. Mais pour l'heure, il ne faut pas oublier que l'un des principaux risques pour le malade est la dénutrition qui diminue sa réponse immunitaire et le rend plus vulnérable à la maladie et aux effets secondaires du traitement. De plus, il faut faire particulièrement attention. Au-delà de 40 jours, la vie est menacée. En 2014, un rapport de l'INSERM soulignant le manque d'études solides sur la question. Il concluait que si la pratique du jeûne encadré médicalement semble globalement peu dangereuse, des risques réels existent dans des contextes différents et la plus grande prudence est alors de mise.
Effectivement, comme toutes les questions de santé, attendons plus de recherches.
Effectivement.
Oui, oui, c'est ça. En fait, on va en reparler à Com dans 10 ans. Il aura déjà notre avis, mais par contre, petite question, le jeûne, là, c'est à partir de combien de temps qu'on s'est considéré un jeûne ?
Ça peut être juste plusieurs heures, plusieurs
Donc,
jours.
Je manque juste le dîner, je peux dire j'ai jeûné.
Ouais. C'est un jeûne. Le fait de ne pas manger est un jeûne.
D'accord.
De priver son corps de nourriture. En général, comme on disait, donc c'est le corps a besoin de s'alimenter à peu près toutes les 6 heures.
D'accord. Parce que si on compare maintenant donc les citadins 21e siècle comparé à avant où les populations étaient plus rurales, les gens mangeaient juste le matin et des fois ne remangeaient pas avant le soir.
Mm-hmm. Ouais, peut-être et effectivement plus riche, peut-être pas à la même fréquence, plus petite quantité aussi.
Oui,
puis là, on est dans une abondance de nourriture. Actuellement, il y a de la nourriture absolument partout et à n'importe quel moment. Donc, effectivement, les périodes de jeûne ne sont peut-être pas considérées les mêmes, mais le fait juste de ne pas s'alimenter pendant quelques heures peut être considéré comme un jeûne.
D'accord. Puis le 40 jours, ça, c'est sûr.
Ah,
ça,
là,
c'est...
ouais, ça, c'est pas bon 40
oui,
jours.
Oui, non,
faut,
ça, c'est mauvais signe.
Il faut manger quand même, à un moment donné.
Suivons sur les questions de santé, je crois, de votre côté, Yves-Olivier.
Oui, 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 tout à fait. En fait, ça, c'est l'effet Com. Hein. Voilà, il est dans la science,
il nous rend plus intelligents.
Il nous influence positivement. Donc, j'avais un texte sur des bêtises et finalement, j'ai dit non. je vais faire une meilleure personne de moi-même. Et je vais vous parler d'un texte de Vanessa Fontaine de La Presse qui nous parle des mots MAUX de la génération iPhone. Les pauvres, hein, ils en prennent pour leur grade à tous les niveaux. Et maintenant, ils sont même liés aux problèmes de dos chez les jeunes. Donc, des problèmes habituellement réservés aux personnes plus âgées, comme des bosses de sorcières, des tendinites et des maux de dos, apparaissent désormais chez une clientèle de plus en plus jeune, parfois d'âge préscolaire. On commence à peine à comprendre l'impact qu'ont les appareils intelligents sur les jeunes dos en pleine croissance, et leur utilisation ne fait qu'augmenter. Déjà, en quatrième année du secondaire, Mélodie Barrière, 20 ans, passait ses journées à la tête penchée sur un appareil. À l'école, elle travaillait sur des tablettes qui arrivaient dans ses classes par chariot. À la maison, il y avait les devoirs et puis Facebook, les textos et toutes sortes de distractions sur son téléphone portable qu'elle possédait depuis la deuxième secondaire. La douleur, qui irradiait de sa nuque à son dos depuis quelques années, ne la quittait plus. Ça devenait handicapant pour moi. Quand je faisais mes travaux, par exemple, je devais m'arrêter parce que j'avais de gros maux de tête. Alors j'allais me coucher, mais je n'arrivais pas à m'endormir parce que c'était trop douloureux, se souvient-elle. Comme Mélodie, les jeunes sont de plus en plus nombreux à posséder un appareil portable et à en faire une utilisation prolongée. Selon un sondage réalisé en 2017 par l'organisation Common Sense, 42% des enfants de 8 ans et moins aux États-Unis avaient leur propre tablette. Il existe d'ailleurs des étuis à iPad pour siège de bébé. Ça devient grave. Hein. Les enfants passaient en moyenne 2h19 minutes par jour sur un appareil portable. Avec l'usage de ces appareils, la tête est projetée vers l'avant. Et pour chaque avancée additionnelle d'un pouce, c'est comme si elle pesait 10 livres de plus pour notre colonne vertébrale. Donc, lorsque la tête est penchée à 60 degrés, comme lorsqu'on tient un téléphone près du corps, c'est comme si la tête pesait 60 livres, explique la docteure Marie-Ève Boivin, chiropraticienne et présidente de l'Association des chiropraticiens du Québec. Cette charge constante finit par entraîner des changements posturaux notables. Les bosses de sorcière, par exemple, une courbe du dos accompagnée d'une protubérance des vertèbres supérieures, affligeaient surtout jusqu'à récemment une clientèle d'âge mûr. Ces bosses sont dorénavant visibles chez de nombreux adolescents. On peut tout de suite identifier les utilisateurs fréquents. Mon bureau est devant un métro et je vois les gens passer, la tête complètement avancée. Ça se voit, affirme Marie-Hélène Boivin. J'en ai vu au défilé de mode à l'école de mon fils qui a 9 ans. Et je me demande ce que ça va donner dans 15 ou 20 ans. C'est préoccupant parce que l'usage des téléphones ne diminuera pas, dit-elle. Mélodie Barrière, qui vient d'entamer un doctorat en chiropratique, explique qu'une colonne vertébrale en santé devrait former un S, mais ce n'est plus son cas. J'ai pris des radiographies quand j'ai commencé l'école et on le voit, mon cou n'a plus de courbe, mes vertèbres sont complètement droites, dit-elle. J'essaie de corriger ça en faisant des exercices, mais mon cou est en début de dégénérescence. Tous les étudiants de ma classe ont pris des radiographies au début de l'année et ça se retrouve chez tout le monde. Un cou droit à notre âge est devenu normal, ajoute-t-elle. On remarque aussi l'apparition d'une kyrielle d'autres problèmes, comme des syndromes du canal carpien, des tensions au niveau des avant-bras et même au niveau des pouces. Ce qu'on ne voyait pas avant, mais qui est apparu à cause du mouvement de défilement, explique le docteur Charles Caron, chiropraticien et représentant pour l'Association des chiropraticiens du Québec. Ce qu'on voit aussi et qu'on ne suspectait pas, c'est que ça se répand, même dans le bas du dos et au niveau de la taille. Le fait d'être toujours affalé, ça crée une tension au niveau de la respiration parce que la cage thoracique se trouve comprimée, compte inutile. Ces problèmes apparaissent chez une clientèle de plus en plus jeune, chez des petits patients de 3 ou 4 ans qui viennent me voir et me disent « bobo dans le dos ». Leur douleur est souvent due à de nombreux facteurs. Il n'est toujours pas facile d'établir un lien de cause à effet à cet âge, mais je me demande toujours aux parents si leurs enfants passent beaucoup de temps sur une tablette. Et oui, ils en font de la tablette, affirme la docteure Joëlle Malenfant, chiropraticienne qui travaille auprès d'une clientèle pédiatrique. Les jeunes ont cependant un avantage par rapport aux patients plus âgés. Ils ont encore le temps d'adopter de bonnes habitudes selon Charles Caron. Pour être honnête, la tâche va être titanesque, parce que c'est déjà tellement ancré, mais je pense qu'à coup d'effort, on va y arriver. Plus on intervient tôt, meilleures sont les chances de renverser la situation ou au moins de freiner la progression, dit-il. Dans le cas de Mélanie Barrière, quelques exercices quotidiens et l'adoption de certaines précautions, comme l'utilisation d'un lutrin pour soutenir ses appareils portables, ont tout changé. Ces maux ont entièrement disparu. Il y a de l'espoir, mais je l'ai vécu cette amélioration-là. Au secondaire, j'étais toute courbée et maintenant je marche le dos droit. Je me sens mieux et j'ai plus de vitalité. Quand j'aurai des enfants, je vais avoir une grosse réflexion à faire. J'aimerais qu'ils attendent d'avoir des appareils électroniques et qu'ils soient bien informés avant de les utiliser, dit-elle.
Et je pense que tout le monde s'est redressé en écoutant.
Oui, c'est drôle, dans le studio, là, les trois en écoutant.
Pour prévenir rapidement, on baisse les yeux. Donc on installe l'appareil au niveau des yeux, on bouge, au moins 30 à 45 minutes, on s'étire, on roule les épaules, on tourne la tête, etc. On s'assoit droit, puis l'autre affaire c'est qu'on évite l'iPhone, tout simplement. Voilà.
On voit parfois, vous savez, ces illustrations avec l'évolution de l'histoire de l'homme, il part d'un singe, puis il se redresse au fur et à mesure, et il se rabaisse.
Moi, je fais moins la guerre, on est moins amputé aussi.
Je pense que c'est très dangereux aussi dans les transports en commun, où on a tendance à être les yeux effectivement baissés, et le téléphone près du corps. À éviter donc.
Bah moi j'arrête, en fait je regarde les gens dans les yeux dans le métro. Bon, j'ai d'autres sortes de problèmes. Pour me rabaisser à votre niveau, je me force à me baisser en fait.
Et peut-être serait-ce un remède. Combe nous fera un article sur le sujet pour voir ça. Je vous propose un bain de bouillon. C'est ce qui se passe en Chine. Vous reprendrez bien un bain de bouillon. En Chine, un hôtel tente d'attirer les touristes en leur proposant de prendre leur bain thermal traditionnel dans un bassin en forme de récipient à fondue chinoise. Vous savez, c'est rectangulaire avec 9 compartiments. Et ben voilà, c'est un bain géant. Il y a voilà des maïs dans l'un d'eux. Il y a des brocolis et les gens se baignent là-dedans.
On peut ramener son petit cubord et mettre son bouillon de poule.
Voilà. Alors il n'y a pas d'effet scientifique médical prouvé, mais peut-être que ça fait du bien au dos. Écoutez, cette eau chaude.
Je vais chercher un petit peu.
Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. On va avoir le menton haut dans le métro toute la semaine. On va s'étirer pour pas avoir mal au dos. Merci à vous deux. Merci à Jean-Sébastien aussi pour la mise en onde et les choix musicaux. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.
À bientôt.
Bye bye.